Depuis leur arrivée sur le plateau des Petites Roches et jusqu'à aujourd'hui, les établissements hospitaliers de Saint-Hilaire-du-Touvet ont concentré de nombreuses histoires et expériences de vie. À l'époque, des paquebots vous proposent de découvrir les témoignages en mosaïque de ceux et celles qui ont fait la vie des établissements. Dans ce troisième volet de « À l'époque des paquebots », vous entendrez deux personnes, deux témoignages. Voici le premier, celui de Florence Drouin, habitante du plateau, dont la famille porte une histoire en lien avec les sanatoriums.
Félix Jourdan, mon arrière-grand-père, a été à l'initiative de l'idée de la fondation de ces établissements, très tôt, hein, en 1900. Lui était vétérinaire, il faisait de la recherche avec Pasteur, avec l'Institut Mérieux à Lyon, autour de la tuberculose. Donc il avait pris conscience déjà en 1900 du fléau que ça pouvait représenter. Et donc il avait fondé une société anonyme avec un médecin, le docteur Berlioz. Ils ont eu l'idée que créer un sanatorium à Saint-Hilaire-du-Touvet, ce serait des conditions idéales pour le faire. Et ils connaissaient le plateau, puisqu'en fait, la famille avait une maison sur le plateau, alors qu'ils étaient grenoblois à l'origine. Ils ont essayé de mettre en place ce projet, mais en fait, ils étaient en avance sur leur temps. Et à ce moment-là, la société n'avait pas conscience de ce problème de la tuberculose. Donc, ils avaient pris contact avec le maire des villages du plateau à l'époque pour essayer de faire avancer leur projet. Et puis, ça n'avait pas abouti. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a une histoire avec les établissements. De génération en génération, on est venu passer les vacances dans cette maison à Saint-Hilaire. Donc on a toujours su qu'il y avait une histoire liée au plateau et au centre, en fait. Ma sœur, qui était infirmière, a travaillé là-haut. Enfin, quand elle a cherché du travail, le premier travail qu'elle a trouvé, c'était dans les établissements. Et c'était presque naturel d'aller chercher du travail dans un des établissements là-haut, puisqu'elle a travaillé à Roche-Plane. Et mon oncle travaillait aux établissements. Il était à l'accueil à Roche-Plane. J'ai une anecdote pareille que j'ai toujours entendue quand j'étais enfant, et bon, j'ai eu confirmation que c'est une histoire vraie. En fait, Félix Jourdan avait plusieurs enfants, et notamment une fille qui était infirmière, enfin qui a été infirmière pendant la guerre de 14, et qui visitait les patients au centre là-haut. Et puis à l'époque, il fallait monter à pied. Et il existait, en fait, entre le village de Saint-Hilaire, au chalet là, de décollage parapente maintenant, une petite gare, et il existait un petit téléphérique qui montait, en fait, les vivres au centre. Et un jour, parce qu'elle était pressée, elle est montée dans ce petit téléphérique, alors qu'il faisait... c'est tout petit, hein, c'était juste pour mettre quelques provisions. Elle est montée dans ce petit téléphérique pour aller plus vite, et elle a fait... Voilà, elle est arrivée comme ça au centre là-haut, alors que c'était vraiment... c'était pas fait pour les personnes, en fait. C'est Félix Jourdan qui était un sacré personnage, fondateur un peu dans la famille. Parce que il était en avance sur son temps. Il faisait de la recherche avec Pasteur, en relation avec Pasteur à Paris, avec l'Institut Mérieux à Lyon. Parce qu'à l'époque, médecins, vétérinaires, chercheurs, au début du XXe siècle et même à la fin du XIXe siècle, il n'y avait pas vraiment de différence, en fait. Et les choses n'étaient pas arrêtées, donc... Donc il a fait ça. Après, il a construit une cave. Il a créé un vin. C'était un fort personnage. Et je sais que le fait que l'idée a été reprise et qu'elle a abouti. Il en a été très très heureux, en fait. Mon compagnon a eu, qui fait du parapente, a eu un accident de parapente. Donc il a été hospitalisé au CMC pour sa rééducation. Donc voilà, c'est un établissement que j'ai fréquenté dans ce cadre-là. J'ai pu constater, oui, le dévouement du personnel. Et c'est vrai que, voilà, c'est des personnes que j'admire, en fait. Entre les soignants, il y avait un lien, parce que les gens, ils travaillaient dans les centres, mais ils vivaient aussi sur le plateau. Tout le monde se connaissait. Du coup, c'était, ils avaient des liens forts entre eux, en fait. Je sais que ma sœur, pourtant, elle a travaillé que quelques années, hein, je ne saurais même plus dire, mais peut-être 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Mais elle a gardé des liens avec les autres infirmières à qui elle a travaillé à cette époque. Parce que voilà, c'était un lieu un peu à part, un peu en dehors du monde, mais mon compagnon le raconte, quoi, le cadre qui était idéal pour se remettre d'un accident, parce que c'était calme. Puis les gens étaient disponibles, parce que dans une ambiance voilà, de la nature autour, apaisante, en fait. Voilà, même si bon, le milieu médical n'est pas forcément facile, mais voilà, c'était un peu un écrin en dehors du monde qui facilitait partir, marcher dans la nature. Voilà, c'est pas la même chose que tourner en rond dans les centres à Grenoble, dans un périmètre défini, avec des fermé. Enfin, ça n'a rien à voir. Là, c'était dans la nature, donc c'était ressourçant, en fait. Donc alors après, peut-être que ça peut faire à peur à certains, parce que les gens qui venaient de la ville, par exemple, qui ne connaissaient pas la montagne, peut-être que ça pouvait les impressionner. Ça, on comprend aussi. Mais je crois que c'était aussi, enfin, on entend aussi beaucoup dire que c'était difficile pour les familles, parce que c'est vrai, éloigné de Grenoble ou éloigné de la ville, au niveau de l'accueil aussi sur le plateau pour le logement. Autant du temps des tuberculeux, il y avait des hôtels, il y avait des endroits pour recevoir les familles, mais après, finalement. Pour l'accueil des familles, c'était un peu compliqué, hein, pour les gens qui faisaient régulièrement, du coup, la route pour venir voir les malades ou les accidentés. C'était un peu compliqué. Ben moi, j'ai le souvenir aussi que quand on était gamine, on pouvait aller à la piscine, mais pas dans le cadre de l'école, parce que bon, moi, j'ai jamais été à l'école sur le plateau, mais l'été. Les piscines des centres, au moins celle du CMUD, étaient ouvertes aux gens du plateau pour pouvoir profiter de la baignade. Mais je me souviens que je n'aimais pas, parce que l'eau était trop chaude. Quand il y avait des manifestations, donc il y avait des rencontres aussi avec les patients. Ça pouvait être aussi une richesse, prendre conscience aussi que voilà, la vie, ce n'est pas que rose. Et certaines fois, voilà, pas pour tout le monde en tout cas. Il y avait eu aussi un effort au niveau du hall d'accueil, le grand escalier, les céramiques au sol. Enfin voilà, il y avait aussi une certaine recherche esthétique. Et puis, je sais, au CMUD, dans le cinéma, il y avait des peintures. Alors, je ne sais plus de qui, quel en était l'auteur. Mais ces peintures, par exemple, elles ont été démontées. Et je sais qu'il y a une équipe de restaurateurs qui sont venus les déposer pour, voilà, les stocker, en tout cas les conserver. Alors je sais pas où elles sont actuellement conservées, mais parce que voilà, c'était quand même de la belle peinture et de qualité. Ouais. Donc il y avait aussi une recherche esthétique aussi qui faisait partie du souci de l'accueil, je pense, du patient. C'est la fin d'un monde. Enfin, alors c'est vrai que quand ils ont disparu, il n'y avait plus de tuberculeux. Hein. La maladie avait été enrayée depuis longtemps. Depuis, je n'y suis pas retournée, mais ouais, ça met un peu mal à l'aise, en fait. Puis Ouais, ce côté un peu du vandalisme, c'est presque ça. Enfin, que ça a pire en si peu de temps, que tout a été comme ça détruit, saccagé en si peu de temps. C'est vrai que c'est un peu. C'est un peu triste en fait. C'est toutes ces années d'histoire qui disparaissent finalement en si peu de temps. Et puis il reste quoi? Oui, je connais une amie qui a été hospitalisée là-haut et en fait finalement elle est restée sur le plateau parce qu'elle a rencontré son mari et voilà. Donc il y a plein d'histoires en fait comme ça qui étaient partie de l'équipe soignante. Donc oui. C'est vrai que c'est des belles histoires.
Pour la suite de cette émission Tout en piano, écoutez le témoignage de Jean-Philippe Isoletta, pianiste.
Quand j'ai déménagé sur le plateau, donc en 2003, donc il y a une quinzaine d'années, en fait, j'ai découvert ces établissements qui étaient encore donc en fonctionnement, où il y avait des employés, des patients, et j'ai donc notamment découvert la salle du Petit Théâtre à l'Italienne qui se trouvait au CMUD, donc un des trois établissements, le centre médical Daniel Douady. Donc je me suis renseigné, j'ai vu que c'était une salle qui était assez ancienne, qui était en plus décorée avec des peintures magnifiques de l'époque surréaliste et donc par des artistes pas vraiment connus, mais qui étaient en vogue dans les années 20 et 30. Et j'ai ressenti une certaine âme dans cette salle et du coup j'ai eu envie de pouvoir faire un concert dedans et d'utiliser ce fameux piano qui était sur place, qui appartenait donc à Alfred Cortot, qui était un grand concertiste français, grand pédagogue aussi, et qui était venu dans les établissements pour se faire soigner à une époque, et apparemment il a dû y venir plusieurs fois ou rester un certain temps, parce qu'il a donc laissé un de ses pianos qui lui appartenait, ce fameux piano Pleyel de l'époque. Et donc il a laissé sur place, en don pour le Petit Théâtre à l'Italienne, parce qu'il se trouve que j'ai appris par la suite qu'à cette époque, donc dans les années 20-30, la salle a pas mal tourné, et donc ce piano a servi à de très grands pianistes européens qui ont fait des récitals, qui ont donné des récitals sur ce piano, parce qu'en fait il y avait une vie artistique assez développée, voilà, et il y avait entre autres certains intellectuels ou artistes qui ont séjourné dans les établissements à Saint-Hilaire, et donc il y avait aussi une programmation et des concerts qui étaient donnés dans ce Petit Théâtre à l'Italienne, et quand c'était des pianistes ou qu'il y avait une formation avec un piano, donc ils pouvaient jouer sur le piano de Cortot. Quand par la suite, donc des années après, l'association du plateau, Ciné Plateau, qui permettait aux habitants du plateau avant que j'arrive et jusqu'en 2010-2012, utiliser cette salle pour faire des projections de cinéma, le piano était rangé en fond de scène derrière le rideau de fer. Parce que donc à l'époque, enfin j'imagine que c'était encore dans certaines salles, il y avait un rideau de sécurité qui pouvait descendre en cas d'incendie, pour limiter la propagation de l'incendie, et donc le piano était derrière, en fond de scène, tout le temps, quoi. Parce que c'est donc un modèle particulier qui s'appelle la Grande Demoiselle, qui faisait 2,76 m de long, et à l'époque c'était le plus long piano à queue au monde, et la facture Pleyel n'en avait construit que 3. Voilà, et donc il est en état actuellement, je pense, pas trop mal par rapport à l'âge qu'il a, quoi. C'est une chance, il était en fonte. Ouais. Parce qu'en fait, les cadres en fonte sont apparus dans les pianos à partir de la deuxième moitié du 19e, même plutôt le dernier tiers. Et donc, comme ce piano devait, je pense qu'il date à peu près du début du siècle, donc les cadres étaient déjà en fonte. Sinon, malheureusement, il n'aurait pas tenu l'accord, il aurait été, je pense, quasi irréparable, si ça avait été un cadre en bois. Il était assez long et plus fin que les pianos d'aujourd'hui, parce qu'en fait, la facture en était à ce stade d'évolution où ils avaient besoin de faire un piano assez long pour que les cordes en fait soient très longues, pour qu'ils puissent avoir du volume sonore. Alors en fait, ce piano, donc, du coup, après est resté propriété de la Fondation de santé des étudiants de France, donc à qui appartenait le CMUD. Il a été déménagé à l'établissement qui a été construit dans l'agglomération grenobloise. Et actuellement, il est donc chez un transporteur de piano en garde-meuble. Alors, il n'a pas été accordé à peu près, donc je pense, depuis pas loin d'une dizaine d'années. Enfin, moi, j'ai été un des derniers musiciens à faire des concerts dessus sur place. C'était en 2007. Et donc, s'il n'a pas été accordé depuis, ce que j'imagine, et qu'il a été transporté 2-3 fois, bon, je pense qu'il est encore réparable, mais il doit être en moins bon état qu'en 2007. Après, ce qui serait super, c'est que le directeur actuel du nouveau CMUD, donc, qui est en agglomération grenobloise, puisse prendre l'initiative de pouvoir financer la restauration de ce piano. Alors peut-être qu'il faut simplement l'accorder 2 ou 3 fois. Je pense que le bois a bougé, donc il y aurait des travaux qui ne sont pas non plus énormes, mais qui nécessitent quand même un certain coût. Voilà, et je pense que si plus malheureusement, plus le temps passe, plus il y aura des réparations importantes. La Grande Demoiselle a un son qui est incomparable parce que c'est un son vraiment assez chaud et avec un timbre particulier. Alors qu'aujourd'hui, les pianos ont un côté, on va dire, entre guillemets, un peu plus, avec un son un peu plus net et ont plus de volume et donc un timbre avec une largeur et une richesse qui n'est pas la même, qui est plus proche en fait des factures modernes. C'est une salle où il y avait une excellente acoustique. On entendait vraiment très bien de n'importe où on était dans la salle. En plus, vraiment théâtrale italienne par rapport à sa forme, avec les strapontins d'époque, avec une scène assez importante où on avait vraiment de la place, ce qui n'est pas tout le temps maintenant, des fois, le cas aujourd'hui. Alors après, c'est de l'histoire du ressenti, mais mon ami musicien comme moi-même, moi, je sais que j'ai ressenti une âme dans cette salle où au début, je ne connaissais pas trop, puis je n'avais pas toutes les infos que je vous dis là. Et en tout cas, je ressentais, lui aussi, qu'il s'était passé des choses dans cette salle. Voilà. Que ce n'était pas juste un petit théâtre dans un établissement hospitalier. Enfin, il y avait une vie qui était là, quoi. En plus, il y avait les grandes fresques murales qui étaient énormes, qui étaient de chaque côté des deux pans de la salle, côté public. Et il y avait aussi des traces de vieilles machineries de théâtre dans les loges qui étaient donc au sous-sol en fond de scène. On accédait par un petit escalier en colimaçon sur la scène, donc la loge était vraiment sous le fond de scène, un peu comme les théâtres et les opéras d'époque. Et il y avait encore quelques traces de vieilles machines pour toute la machinerie qui se faisait à l'époque tout à la main, quoi. Alors après, moi je ne suis pas acousticien ou architecte, mais je pense que les plafonds étaient assez hauts, il y avait un effet de résonance qui était assez, assez neutre. Bon, par exemple, ça ne tournait pas autant comme quand on dit que le son tourne comme dans une église, par exemple, ou qui servent aussi de salle de concert. Ça ne faisait pas du tout hall de gare, et le son était bien véhiculé, parce qu'en fait, la scène étant assez profonde et arrivant sur le... un peu pas très loin des premiers rangs, tout le public était aussi en pente, pas vraiment avec des balcons, mais le haut de la salle était plus élevé au niveau des sièges que le bas. Et en fait, tout ça combiné, avec pourtant les murs étaient en béton, quoi, mais il me semble quand même que le plancher de la scène était en bois. J'ai un vague souvenir. En tout cas, voilà, le son se propageait très bien, de manière équilibrée dans tout le théâtre. Et c'était pas non plus une très grande salle. Il devait y avoir, je pense, environ 150 places. Voilà. La jauge à peu près, si 150, peut-être sans les strapontins, mais voilà, pas beaucoup plus. Ça faisait un peu amphithéâtre, et c'est un peu c'était vraiment, ça, quand j'emploie le terme de théâtre à l'italienne, c'est vraiment comme sont certains théâtres, justement en Italie, donc un peu en amphithéâtre, un peu en pente, un peu, enfin moi ça me faisait penser un peu à un opéra miniature, une salle d'opéra miniature, on va dire. À l'époque, c'était vraiment un peu Je pense que même parfois, il y avait plus d'activités culturelles ici que dans certains lieux de la vallée. Mmh. Parce qu'il y a vraiment des pianistes, j'ai été surpris, vraiment connus internationalement, qui sont venus jouer ici. Mmh. Bon, il y a par exemple Wilhelm Kempf, qui était un pianiste allemand donc de réputation mondiale. Il y a aussi Arturo Benedetto Michelangeli, qui était un pianiste italien, donc aussi pareil, avec une carrière internationale. Et puis, il y a pas mal d'écrivains ou d'intellectuels qui sont venus alors à une époque plus moderne. Je sais que Jacques Brel est venu se faire soigner ici. Édith Piaf, je ne suis pas sûr. Sinon, il y avait aussi Alfred de Camus et Cocteau qui sont venus sur place, voilà, qui ont eu des soins sur place. Donc voilà, et puis le bâtiment avait été inauguré par le président de la République de l'époque, je crois que c'était Édouard Herriot. Voilà. Et donc c'était un lieu où les artistes étaient habitués à se rencontrer, et je pense qu'il y en a qui devaient venir, ne serait-ce que de l'agglomération de Grenoble, et en tout cas d'ailleurs, en tout cas il y avait une programmation. Oui, parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment le souvenir, et ça m'est assez resté, parce que j'ai décidé de ne pas y retourner, comme l'ont fait pas mal de personnes, une fois que c'était tout détruit, tout délabré, parce que je voulais garder un bon souvenir, et on va dire une empreinte vivante un peu du lieu. Et j'ai vraiment ce souvenir-là, où étant dans la salle, même à des moments seuls, en répétant, voilà, où je ressentais qu'il y avait eu un passé vraiment important, et que des choses positives en plus. Enfin, voilà. Malgré que, on oubliait un peu qu'on était dans un hôpital, en fait. Enfin, moi, j'avais ça. Quand je répétais là-bas tranquillement, seul, quand la photographe n'était pas là, ou quand c'était pas avec mon collègue violoniste, ou quand après j'ai joué mon ciné-concert pour la séance scolaire et la séance publique, quand je me retrouvais à répéter seul là-bas, s'il y avait des moments où ça pouvait arriver, mais j'oubliais un peu le reste du bâtiment et le fait que ce soit un lieu médicalisé, quoi. Aussi pas mal d'enfants du plateau qui ont joué là-bas, du coup, voilà, en spectacle de fin d'année. Donc ça, c'était pas mal aussi. Et puis la population d'ici était habituée d'aller au cinéma. Voilà, donc du coup, il y avait deux ou trois représentations par semaine avec une association qui gérait bien la programmation. Et donc, ça faisait partie un peu des mœurs du plateau, de se rendre au CMUD, ne serait-ce au moins pour aller au cinéma. Quand j'ai su que les établissements allaient fermer, que ce piano était là, et puis après avec les gens du plateau, donc la population ici, vraiment on se demandait ce qu'allait devenir ce piano. On ne savait pas. Il y avait des tas de rumeurs, on n'arrivait jamais à savoir la vérité. Et donc j'ai écrit à la maison Pleyel, qui à l'époque était encore existante, parce que malheureusement aujourd'hui, la facture a cessé son activité. Et donc ils ne m'ont jamais répondu. Alors que le Pleyel, voilà, c'était un Pleyel, quoi. Donc c'était un peu leur patrimoine, parce qu'on espérait que ce piano finisse dans un musée, ou qu'il soit joué par des musiciens dans une salle. Alors aujourd'hui, on sait qu'il est retourné à la maison mère de la Fondation des Santé des étudiants de France, en région parisienne. Il était stocké là-bas, puis il est revenu donc à Veuret, donc chez le fameux garde-meuble. Voilà. Enfin, il est la propriété donc des établissements, et c'est le directeur actuel qui a autorité dessus, qui pourra prendre une décision. Mmh. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je vous dis ça, je ne suis même pas sûr qu'il ait fait des voyages à Paris, à la Fondation, à la maison mère de la Fondation. Peut-être qu'il est allé directement dans la région ici, où il est donc en garde-meuble chez ce transporteur de piano. Donc en tout cas, on va dire que le moins pire pour moi, ce serait qu'il soit au moins dans un musée, voilà, que les gens puissent le voir, voilà. Et sachant que ce serait pas l'idéal, parce que donc il peut encore être utilisé comme à son essence, donc un instrument, quoi.
Écoutez À l'époque des paquebots deux fois par mois sur les ondes 89 et 87.8 FM. Vous pourrez également écouter et réécouter ces émissions en podcast, connaître les dates de diffusion en vous rendant sur le site internet de Radio Grésivaudan, www.radiogrésivaudan.com. radio-grésivaudan.org.